à cette période. Mais en tout cas, pour ma part, c'est important de faire la distinction des éléments. Et je ne voudrais pas laisser croire que je suis toujours pasteur alors que je ne suis plus en fonction, si je peux me permettre de parler ainsi. Et puis une deuxième remarque, c'est que si je suis journaliste, alors c'est vraiment de façon très restreinte. Effectivement, je travaille à Radio Zoonose, mais je n'ai pas de formation de journalisme à proprement parler. Donc j'apprends, comme beaucoup d'entre nous, sur le tas. Et c'est pas une mauvaise chose. Il paraît que ça fait partie de l'apprentissage qui est désormais pris en considération par l'Union européenne. Alors tant mieux, profitons-y. Alors, je crois que je vais être obligé d'enlever mes lunettes parce que sinon j'écris tellement petit que je ne vais pas réussir à me lire. Le problème, c'est que je ne vais pas réussir à vous voir clairement. Mais enfin bon, on va s'arranger quand même. Parmi les autres remarques que je voudrais faire, c'est que la problématique de la vie en société, c'est quelque chose qui assurément me préoccupe, que ce soit dans un cadre restreint, parce que je crois que la société, ça commence déjà à deux, ou un cadre beaucoup plus large. Avant toute chose, c'est la question de la relation entre les êtres humains qui m'importe, qui m'intéresse. Et j'essaye, dans la mesure du possible, d'avoir la meilleure relation avec les uns et les autres. Enfin, et de plus, je m'efforce de porter mon regard sur Jésus-Christ, qui pour moi est la référence. Alors j'ai essayé de faire le tour de ce qui pouvait être une référence, et puis à chaque fois je reviens à Jésus. Et j'ai l'impression que c'est la référence, avec un grand L ou avec un grand R. Et je voudrais préciser que pour ma part, j'essaye d'être chrétien. Alors, vous serez peut-être un petit peu choqués par le verbe, mais oui, c'est une réalité en ce qui me concerne. J'essaye d'être chrétien. Je n'ose pas dire que je le suis parce que ça représente tellement de choses. Et pour moi, être chrétien n'est pas une idéologie, mais en premier lieu, une relation, avec ses hauts et ses bas. Alors venons-en à la politique et à la religion. Je n'ai pas assisté à ce qui s'est dit jusqu'à présent. On va voir si je répète simplement ce qui a déjà été dit ou si vous découvrez, je l'espère, autre chose. Pour ma part, j'ai fait de petites découvertes en préparant cette rencontre. Quelques réflexions préliminaires encore. Quand je pense à la relation entre politique et religion, je dois dire que j'ai instantanément un mouvement de recul. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on vous a déjà dit. Je n'aime guère ce mélange entre politique et religion, d'autant plus que je crains les abus de part et d'autre. Je précise bien, de part et d'autre. Les exemples ne manquent pas, vous en avez à l'esprit. Aussi bien dans le passé que dans le présent, d'ailleurs. Pour autant, la politique concerne les humains. Et j'ai grandi dans un milieu chrétien où elle était plutôt laissée de côté, où on avait un regard très dubitatif sur la politique. Et par esprit de contradiction, je me suis toujours dit que c'était au contraire quelque chose à quoi il fallait s'intéresser. Donc, ne serait-ce que dans son sens premier, je crois que la politique concerne donc bel et bien les humains vivant en société, et que la religion, elle est là aussi pour réunir les humains. Enfin, c'est une des définitions qu'on donne du mot religion, parce qu'on ne sait pas très bien d'où vient ce mot, en fait. Et vous allez voir, je vais m'arrêter assez succinctement sur toute une série de mots. Que ce soit au niveau de la politique ou de la religion, je pense que l'ensemble des humains sont concernés, de près ou de loin. Nous ne pouvons pas nous extraire de ces dimensions, ne serait-ce que parce que chacun d'entre nous a un impact sur l'autre. Et même celui qui décide de vivre tout seul dans son coin continue d'avoir, à mon sens, un impact sur l'autre, à sa manière. Il en a un quand même. Et que ce soit un croyant comme un non-croyant d'ailleurs. Politique et religion ont une proximité certaine, ne serait-ce que par un vocabulaire commun. Avez-vous remarqué? Dans les deux domaines, ne parle-t-on pas de doctrine, de discours, voire de posture ou de prosélytisme? C'est vrai que ce dernier mot, on l'emploie plutôt pour la religion, mais quand je vais dans le dictionnaire, je vois qu'il est question de prosélytisme aussi en matière de politique. Donc, je trouve ça intéressant. Tous ces mots sont des mots dont je me méfie, là encore. J'aime pas trop la doctrine, même s'il est question à la base d'enseignement, mais endoctriner, hein, ça coince. Les discours, ben, les beaux discours, vous en avez entendu plein, et c'est peut-être une des raisons qui m'a amené à en prononcer un peu moins. Les postures, le prosélytisme, je ne suis pas vraiment convaincu que ce soit quelque chose qu'on ait à suivre. Ne disons pas que l'on entre en politique comme on entre en religion. La politique implique un engagement. Et être chrétien, généralement, c'est être engagé. Politique et religion sont au service de l'humain, mais on peut se poser dans les deux cas la question de savoir si c'est plutôt pas au service d'un humain, d'un ego, je veux dire. Et puis en plus, je doute de la capacité des humains, de l'humain, à atteindre des objectifs nobles, malgré les références aussi bien en politique qu'en religion, à des valeurs, à une éthique, etc. J'ai donc peur de l'endoctrinement, de la propagande, du fanatisme. Je suppose que certains parmi nous, cet après-midi, craignent aussi ce genre de phénomène. Alors d'emblée, je dirais que pour éviter ces écueils qui m'apparaissent comme majeurs, nous avons besoin de transcendance. Problématique, c'est quelle transcendance ? Je ne développerai pas trop ce point-là, mais bon, c'est une dimension étonnante qui nous aide, je le crois, et là vous allez retrouver un peu plus tard ce que je vais exprimer ici, je crois que cette dimension de transcendance nous aide à voir plus loin, tout en prenant conscience de nos limites. Ça paraît contradictoire, mais la transcendance nous oblige à aller regarder au-delà, tout en sachant que nous-mêmes, on est dans un cadre restreint. Alors, puisqu'il s'agit d'une étude biblique, allons ensemble à la Bible et rendons ensemble une petite visite plus spécifiquement au Nouveau Testament. Je ne vais pas aller dans l'Ancien Testament, c'était un peu trop compliqué pour moi, déjà le Nouveau Testament est complexe. Alors je vais me cantonner à l'Ancien, au Nouveau, pardon, pour cet après-midi. Quand j'ai pris conscience du thème politique et religion, les premiers textes qui me sont venus à l'esprit, certainement parce que je les ai beaucoup entendus, sont ceux où Jésus ou l'apôtre Paul, tous les deux, ont rappelé la nécessité de se soumettre à ceux qui exercent le pouvoir. Par exemple, on trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 20, les versets 20 à 26, la fameuse question de l'impôt à César, où Jésus prend une pièce de monnaie et demande aux pharisiens qui l'interrogent à ce sujet. Il y a quelle effigie dessus ? Mais celle de César, rendez à César ce qui lui appartient. Et puis c'est repris par Paul dans l'épître aux Romains, la lettre aux Romains au chapitre 13, les versets 1 à 7. Également au chapitre 3 de la lettre à Tite. Avec une invitation assez insistante de prier pour ces personnes-là, hein, qui représentent l'autorité, qui exercent le pouvoir. Dans Romains 13, Paul précise que les autorités dépendent de Dieu. Il souligne d'ailleurs auprès de Timothée, dans 1 Timothée 2, versets 1 et 2, qu'il n'y a cependant qu'un seul médiateur. Alors c'est vrai qu'il y a les autorités qui nous dirigent, qui ont le pouvoir, mais juste le verset d'après, Paul éprouve le besoin d'insister sur le fait qu'il n'y a qu'un médiateur entre les humains et Dieu, et c'est Jésus-Christ. Comme pour dire, voilà, ok, les autorités, du respect, bien sûr, priez pour elle, mais n'oubliez pas qu'avant toute chose, vous vous référez à Jésus. Pierre souligne lui aussi que notre attitude envers les autorités est en correspondance avec celle qu'avait Jésus. Il le fait dans 1 Pierre au chapitre 2, au verset 13. Et je crois que l'on peut affirmer que Jésus n'a pas hésité à être en relation avec ceux qui détenaient le pouvoir, qu'ils soient d'ailleurs politiques ou religieux. Les deux étant souvent entremêlés à l'époque. Et au passage, j'ai une petite parenthèse, je suis très heureux que dans notre pays, les deux soient distingués. L'attitude de Jésus manifestait du respect, tout en étant sans complexe, et sans chercher à utiliser surtout le pouvoir à ses propres fins. Ça me semble absolument essentiel. Alors, je n'ai pas le temps de développer cela, mais je voudrais m'arrêter à la place que prend la politique dans le Nouveau Testament et surtout à celle du mot en tant que tel. tentative de définition du mot. En français, il est apparu au XIVe siècle. Donc, c'est pas si loin que ça. Et il parlait ce mot-là de ce qui correspond à un bon gouvernement. Peut-être qu'un ancien premier ministre parlait de bonne gouvernance. Et à l'époque, c'est considéré comme un art. C'est une pratique qui nécessite par conséquent toute une formation et qui est pratiquée dans un cadre considéré comme étant un art. Ça veut tout dire. Le mot, lui, vient directement du latin politicus, relatif au gouvernement des humains, lui-même dérivé du grec politico, donc ça remonte à il y a très longtemps en fait, hein. Et le mot politico vient de politis en référence directe à la cité ou à l'État, puisque polis veut dire ville, cité. Et ça concerne par conséquent les citoyens. Il s'agit donc de l'organisation de la vie en société sous ses différentes formes. Alors si le mot polis est souvent employé dans le Nouveau Testament, 161 fois, pour être précis, en tout cas selon la concordance de la Tobe, hein, rassurez-vous, je ne suis pas allé compter les fois une par une. Par contre, nous n'y trouvons pas le mot politico dans le Nouveau Testament, mais seulement quelques-uns de ses dérivés, en faible nombre, 11 fois. 11 fois, il y a des dérivés de politico, et ces mots sont employés par les hellénistes que sont l'apôtre Paul et Luc, évangéliste, qui d'ailleurs ont très probablement à certains moments collaboré. Ils parlent de citoyens, les 11 fois où ils utilisent des mots de cette nature, ils parlent de citoyens, de citoyenneté et de conduite citoyenne. Dans le livre des Actes, par exemple, il y a à la fin du livre un débat autour de la citoyenneté de Paul. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage où, à plusieurs reprises, Paul est remis en question, ce qu'il dit est remis en question. Et alors, eh bien, il va mettre en avant sa citoyenneté, en particulier en tant que Romain. Et lorsqu'il est arrêté à Jérusalem, au chapitre 21 des Actes, il va utiliser cette citoyenneté pour se faire entendre. Il va d'ailleurs jouer avec ce mot quand il passera devant le Sanhédrin à Jérusalem, indiquant qu'il s'est conduit en citoyen. Et il utilise une expression intéressante, il dit qu'il est citoyen de Dieu, alors qu'il vient de revendiquer sa citoyenneté humaine. Et en disant qu'il est citoyen de Dieu, il fait évidemment réagir. Il fait réagir en particulier Ananias, qui est le grand prêtre. Mais il ne sait pas, Paul, que c'est le grand prêtre. Et alors il le traite de sépulcre blanchi, je crois. Très agréable à entendre. Je n'oserais pas vous dire ça, parce que il y a un peu trop de cheveux blancs, là, cet après-midi. Mais vous êtes bien vivant. Tout va bien. Quand l'apôtre Paul apprend qu'il a dit ça au grand prêtre, il change tout de suite de ton. Et s'excuse. En fait, le grand prêtre a voulu le faire frapper quand il a entendu Paul dire qu'il était citoyen de Dieu. C'était la raison de la réaction de Paul. Et Paul, sachant que c'est le grand prêtre, eh bien, tout de suite change de registre. Ce qui est intéressant quant à l'attitude qu'il adopte à ce moment-là. Chacun est à sa place, par conséquent. Cela n'empêche pas, voire cela génère même des tensions, mais on maintient un cadre de respect. Il me semble que c'est ce que l'on découvre à la lecture du Nouveau Testament. Jésus lui-même donc était confronté aux autorités, il acceptait leur prééminence, non pas par lâcheté ou par défaitisme, hein, mais parce qu'il portait, et lui en particulier, je crois, son regard plus loin. Il arrivait à voir au-delà des phénomènes d'exercice du pouvoir. Et c'est ce que fait également Paul. Dans la lettre de ce même Paul aux Philippiens, il y a deux occurrences de l'utilisation d'un mot dérivé de politico. Deux passages particulièrement intéressants. Et je vais m'arrêter sur eux. Précisons auparavant que la ville de Philippe bénéficiait dans l'Empire romain d'un statut bien spécifique puisque tous les citoyens de Philippe étaient automatiquement citoyens romains. Une ville qui se trouve en Macédoine, pour la situer géographiquement, qui était d'ailleurs au passage entre Rome et Byzance, une ville riche, une ville minière en particulier, et on peut s'imaginer que Rome y a vu son intérêt, et par conséquent, en leur donnant la possibilité d'être automatiquement citoyen romain, ben c'était parce qu'il y avait un retour, hein, bien sûr. On trouve dans cette ville, à l'époque, une église chère à Paul. Une église qui a soutenu Paul dans son ministère, et il semble y avoir entre eux une relation étroite. Alors ouvrons cette lettre aux Philippiens pour nous arrêter dès le chapitre 1er. Dans le chapitre 1er, eh bien, il évoque justement cette relation étroite, l'apôtre Paul. Et puis, il fait un certain nombre de remarques, en particulier au verset 27. Il leur dit « Menez une vie digne de l'évangile du Christ ». C'est la traduction de la TOP que j'utilise, la traduction œcuménique de la Bible. « Menez une vie digne de l'évangile du Christ ». En fait, c'est quasiment la même expression que celle que j'ai mentionnée tout à l'heure dans le livre des Actes au chapitre 23, verset 1er. Ça pourrait être traduit aussi de la manière suivante « Conduisez-vous d'une manière citoyenne ». Parce que c'est le mot, un mot dérivé de « politico » qui est là. Donc « Menez une vie digne, conduisez-vous d'une manière citoyenne ». Ayez un comportement citoyen. Et la citoyenneté est précisée, vous l'avez entendu dans la lecture de l'extrait du verset, elle est précisée, orientée, définie ici. Cette conduite, elle est déterminée par quelque chose, l'évangile du Christ. Important, évidemment. Le mot évangile, c'est la bonne nouvelle, vous savez, hein, du grec, un mot qui est très présent dans cette lettre aux Philippiens, à de nombreuses reprises, et qui apparaît comme un élément référentiel transmis par Jésus. Évangile, c'est Eu Agelion, le bon message. Alors nous, on a pris l'habitude de la bonne nouvelle ou de l'évangile, mais c'est le bon message, si on est un peu terre à terre. Ça vient du mot messager, qui apporte quelque chose de bon. Et ça parle donc de l'annonce de la bonne nouvelle. Au départ, ce mot-là désignait un sacrifice en particulier, un sacrifice offert, pour vous donner un exemple, lors du retour d'Ulysse à Ithaque. On est complètement hors contexte biblique, évidemment, là. Mais à ce moment-là, on a offert un sacrifice. Ce sacrifice s'appelait l'Évangile. Et là, on a affaire à l'Évangile du Christ. Alors, c'est plein d'idées derrière, mais encore, je ne vais pas tout développer ce qu'il y a là-dedans, puisque on parle de politique et religion, on est bien d'accord. Nous pourrions traduire, néanmoins, là, par la bonne annonce de Jésus-Christ, le bon message de Jésus-Christ. Et Jésus est l'annonce, il est en lui-même la bonne nouvelle, il a un message, il a un bon message, ce message c'est ce qu'il transmet et c'est lui-même. C'est plus qu'un petit SMS qu'on tape sur son téléphone, c'est un peu plus dense que ça. Plus tard, on parlera des évangiles, au pluriel, pour parler de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Des bonnes nouvelles, mais les bonnes nouvelles qui sont du Christ. Ici, les Philippiens sont invités par Paul à être les citoyens du bon message, de la bonne nouvelle dont Jésus est le centre. Et je me permets au passage de faire un petit clin d'œil au pape François. Je dois reconnaître que j'ai beaucoup apprécié qu'il indique dans ses premières homélies, ses premiers messages, le fait que Jésus est le centre et non pas lui. Et ça, c'est aux protestants que je suis, ça me parle, évidemment. Oui, Jésus est bel et bien le centre. J'espère que cette bonne nouvelle n'a rien d'un discours électoral. pour n'importe qui le prononce. Hein. Un peu plus loin, dans la lettre aux Philippiens, nous pouvons lire au chapitre 3, le verset 20. Voilà ce que dit Paul. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Intéressant. Là encore, je suis désolé pour la traduction de la TOC, mais ça colle pas tout à fait. Parce que c'est pas notre cité que dit le texte. Le texte parle plutôt de citoyen, de citoyenneté. Bon, il faut aller un tout petit peu creuser pour s'en rendre compte. Et je traduirai de la manière suivante. Paul dit aux Philippiens qu'ils sont citoyens des ciels. Alors là, si je parle ainsi, c'est parce que je fais un petit clin d'œil à André Chouraki, qui, dans ses traductions de la Bible, traduit ce que nous avons généralement par les cieux, il le traduit par les ciels. Et c'est important, parce qu'au-dessus de nos têtes, nous avons un ciel. Alors, peut-être qu'il y en a plusieurs, je ne sais pas, je ne suis pas allé suffisamment loin pour voir. Mais quand Chouraki traduit ainsi les ciels, il indique une dimension toute particulière. On n'est pas dans la géographie. On est dans le domaine du spirituel. Il me semble, enfin, c'est ce que j'en ai compris. Et ça, c'est tout à fait essentiel. On n'est pas dans le domaine des dieux, mais dans le domaine de Dieu. Si vous me permettez cette petite astuce. Nous sommes citoyens, en tout cas les Philippiens sont invités à l'être, citoyens de ce qui est d'ordre spirituel. Et je souhaite là encore que le spirituel ne soit pas composé de messages plus ou moins éthérés, ou à l'inverse, de messages mercantilistes. Je ne pense pas que ce soit dans cette perspective que Paul nous parle. Ce que dit Paul souligne particulièrement fortement l'orientation de la citoyenneté du chrétien. La politique du chrétien. Elle n'est pas tournée vers le fonctionnement habituel du monde, la politique du chrétien, du monde dans lequel nous vivons tous, hein. Mais elle est censée aller plus loin, au-delà de ce qui est habituellement pratiqué. Sans pour autant être en dehors du monde, hein, entendons-nous bien. Nous avons tous les pieds sur terre, enfin j'espère. Il vaut mieux. Parfois faire un petit tour en apesanteur, pourquoi pas, mais gardons les pieds sur terre. Tout en étant sur terre, je pense que le croyant, le chrétien en particulier, doit être aussi au-delà, avec une perspective au-delà. Je n'ai pas dit au-dessus. Encore, j'espère que vous me suivez. Il ne s'agit pas de se prendre pour des super femmes ou des super hommes. On est comme les autres. Et je pense le savoir assez bien, maintenant, après quelques années de vie ici-bas. Mais des personnes qui, mêlées aux autres, donnent un petit goût différent, et ça vous fait forcément penser à une parabole. Jésus nous est présenté comme ayant vécu à notre manière. Il nous a invités à respecter le régime humain, qu'il a lui-même respecté. Il nous a néanmoins appelés à aller plus loin. Lui a apporté un véritable plus, et Jean-Marc Ventre, dans son introduction, en tout cas sur le site internet de l'Église Unie de France, c'est bien ça? Parce qu'il faut encore que je m'habitue, je suis désolé. Protestante Unie de France, merci. Tu l'as bien rappelé, hein, dans ta mise en exergue, enfin non, l'introduction donc de cette semaine, que nous, en tant que chrétiens, nous apportons du goût. Une aide véritable. Jésus nous a invités à faire mieux qu'imiter nos concitoyens. Et je crois que notre première responsabilité est de prendre soin de toutes et de tous, assurément. Chacun comme nous le pouvons. Il ne s'agit pas de définir un moyen de prendre soin qui soit exclusif. Et d'ailleurs, par rapport à cette idée de prendre soin, encore une remarque, c'est le salut prendre soin. Et le salut, vous vous souvenez sans doute, comme je m'arrête régulièrement sur les mots, que ce salut est à au moins double dimension. C'est pas qu'une question de santé physique. Mais ça l'est aussi. C'est une question de santé dans la tête également. C'est l'être entier qui est concerné par la santé, par le salut. Alors si ça c'est de la politique et de la religion, je dis oui. Et j'espère que je ne serai pas tout seul. Si vous pouvez prendre soin de moi, ça m'arrange quand même. Et si je peux prendre soin de vous, bien volontiers. Pour moi, tout cela, c'est une quête. La quête, non pas d'un parti, d'une idéologie, non pas à chercher à être meilleur que mon voisin, à dire que, ça y est, ma découverte, c'est la bonne, c'est la dernière, adhérez-y tous. Non, je ne détiens pas la vérité. Je crois que personne ne la détient. Et je crois que la vérité est sans doute une personne, oui. Cette quête est la quête d'une relation avec celui qui est dans les ciels, avec ceux qui sont sur terre. Tandis que nous nous efforçons de ne pas penser qu'aux choses qui sont sur terre. Et d'ailleurs, dans la suite du dernier verset que j'ai mentionné, l'apôtre Paul insiste là-dessus. Il nous fait comprendre qu'on ne doit pas être focalisé que sur ce qui est sur terre. Nous faisons donc à nouveau le choix de voir un peu plus loin. Je dirais d'avoir plus d'imagination. Pour terminer, dans les évangiles, Jésus emploie une parabole, il y en a encore d'autres bien sûr, la parabole de l'intendant habile. Vous vous souvenez ? Hein, celui qui se débrouille pour détourner des fonds, en gros. Hein. Bizarre. On s'attendrait de la part de Jésus à ce qu'il nous dise autre chose. Et Jésus provoque et nous pousse justement à avoir de l'imagination en nous disant ben, « il y a des personnes qui en ont ». Alors pourquoi n'en avez-vous pas, vous aussi ? Pas pour la malhonnêteté, mais pour ce qui est juste. Ayez de l'imagination pour ce qui est valable. Et Jésus en a eu de l'imagination. Et là encore, je cite 4 textes, 1 par évangile. Mais on aurait pu en trouver plein d'autres. Et je les cite très rapidement, en espérant que vous les ayez en référence. Et puis si vous ne les avez pas, mais replongez-vous dans les évangiles. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 9 et 10, il y a un débat entre les disciples pour savoir quel est le meilleur, qui est le plus grand. Et Jésus va prendre pour exemple les enfants. Ben, je crois qu'il fallait vraiment avoir l'imagination à l'époque pour faire une chose pareille. Il fallait oser, en tout cas. Prendre des enfants, les mettre sur ses genoux et dire « voilà l'exemple à suivre ». Même aujourd'hui, où parfois on parle d'enfant roi, je ne suis pas sûr qu'on oserait vraiment faire ça de façon sérieuse. Dans Matthieu 20, il y a une autre parabole, celle des ouvriers de la dernière heure, auxquels on donne le même salaire que ceux de la première. Cherchez une entreprise où on va faire ça. Bon courage. Dans Luc 19, Jésus rencontre un homme qui s'appelle Zachée, un collabo. Et il va chez lui, et cet homme qui n'avait qu'une seule idée, c'est récupérer un maximum d'argent, se met à le distribuer au-delà de ses moyens. Je ne vous conseille pas de le faire. Mais par contre, de réfléchir au changement qui s'est opéré là, alors que ça paraît inimaginable, je crois que ça vaut le coup. Et enfin, un passage extrêmement célèbre, mais tellement parlant, celui de Jean 8 et de la femme adultère. Cette femme prise en flagrant délit. Elle n'avait rien pour elle au final. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas. Et il s'y prend là encore d'une manière, toujours aujourd'hui on en est à se demander, mais qu'est-ce qu'il a bien pu écrire dans la terre. Enfin, il faut avoir de l'imagination. Et chacun a sa part d'imagination. Alors que nous voulions faire de la politique ou de la religion, peut-être les deux, ben faisons-la, oui. Mais en voyant au-delà. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Fabrice. Voilà, il faut un petit moment pour digérer tout ça, mais nous allons y arriver. Et puis cette fois-ci, aujourd'hui, nous sommes vraiment rentrés dans le vif du sujet. On est dans la Bible, et même dans beaucoup de chapitres de la Bible. Et puis, voilà, nous avons du grain à moudre. Et nous allons avoir besoin d'imagination. Alors, qui se lance pour la première question ? C'est intéressant le verset que Fabrice a choisi, parce qu'il suit tout à fait, il suit instantanément le verset précédent, bien sûr, qui dit « Ceux qui n'ont à cœur que les choses de la terre ». Alors, Fabrice a bien dit, hein, on ne peut pas non plus vivre éthéré et faire abstraction du matériel. Donc, ce n'est pas ça qui est condamnable. Ça, ce qui serait pas bien et ce qui ne serait pas dans la ligne évangélique, ça serait de ne s'occuper que de ça. Donc, en fait, hier, nous entendions le Père Tournat dire, citer le verset « On est du monde, mais on n'est pas de ce... On est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. » Eh bien, voilà, on est un... D'où le problème de politique et religion, d'où l'imagination de notre ami Jean-Yves Gonzalez quand il a dessiné ce tableau, où politique et religion s'entremêlent sans jamais se mélanger, mais elles vont quand même dans la même direction, puis comme disait quelqu'un, ça se rapproche en haut, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Mais je suis d'accord avec Fabrice pour dire que c'est quand même important de ne pas les confondre. Ça, je crois qu'il y est attaché, je le connais depuis longtemps, et c'est une de mes convictions aussi. Je ne cherche pas à vous l'imposer, mais voilà, puisqu'on est là pour prendre nos responsabilités. Alors, question. Je vais vous demander, Joseph, de vous assommer. Même si le fil est plus long que les autres jours, enfin, surtout que le premier jour.
L'intitulé « Politique et religion » m'interpelle parce que les religions, il y en a beaucoup. Et je me disais, est-ce que le thème était basé sur les chrétiens ? C'est-à-dire que le fondement, c'est la politique et le chrétien qui s'engage dans la politique ou quelle est sa position dans la politique ? Alors c'était ça que je voulais premièrement dire, puis après le reste peut-être suivra sur la réponse.
Tu es là hein, pour poser des questions quand même. Je ne suis pas sûr d'avoir été suffisamment attentif à la question. Parce que dans un premier temps, j'ai compris que vous auriez aimé élargir au-delà du chrétien. Non ?
La question, c'est est-ce que ça concerne que le chrétien ?
Il y a les religions, parce qu'il y a la religion chrétienne, et pour moi, je n'entends pas catholique, protestant, orthodoxe, etc. Pour moi, un chrétien, c'est un chrétien. Chrétien par rapport à ce que vous avez partagé ce matin, le message de l'évangile donné aux chrétiens, et puis le religieux. Alors après, il y a toutes les différentes.
Bien sûr.
Je pense que nous nous sommes rassemblés là parce que nous sommes chrétiens.
Oui. Et si je vous parle, c'est en tant que chrétien, en tout cas, quelqu'un qui essaie de l'être.
Voilà, c'est pourquoi l'intitulé me paraissait pas assez précis. Parce que politique et religion, on n'entend pas particulièrement, parce que c'est là où on fait une dichotomie entre les différentes dénominations. Mais pour moi, il n'y a pas de différence entre les dénominations. On est chrétien ou pas chrétien. Et à ce moment-là, notre engagement est différent. Si nous soyons catholiques, protestants ou autres, notre message de base est toujours l'évangile. Donc comment Jésus, comment l'enseignement de Dieu nous était, quelle est notre position entre citoyens par rapport à l'évangile qui nous a été donné?
Oui, oui, mais tout ce que vous dites là me dépasse. Je suis incapable de répondre à ce que vous exprimez là. ce que je partage avec vous n'est qu'un éclairage et je voudrais avoir cette humilité-là, si possible. Bien sûr que ça concerne tout le monde. Et là encore, le mot religion, il n'est pas du tout issu du christianisme. Nous employons quantité de mots de vocabulaire dont nous pensons qu'ils viennent de nous, alors que ce n'est absolument pas le cas. D'où la nécessité à la fois d'élargir, je pense, hein, par rapport à un pareil thème, c'est vrai qu'il faudrait pouvoir élargir le champ, et puis en même temps, le voir sur un plan personnel. Parce qu'on peut en parler pour les autres, mais tout ce que nous disons, c'est nous qui l'exprimons, ça vient de nous. C'est notre propre interprétation. J'ai été très frappé d'assister à une conférence sur le cerveau au mois de janvier, où l'auteur, le conférencier, pour ceux qui étaient là, donc il semblerait qu'il y en ait, le professeur Liedo nous a fait écouter une partita de Bach interprétée par Glenn Gould. Interprété alors qu'il avait 25 ans, je crois, et ensuite vers la fin de sa vie, 20 ans plus tard. Et c'était deux choses considérablement différentes. Pourtant, c'était la même personne, mais avec une expérience différente. Eh bien, ce que je vous dis aujourd'hui, je ne vais pas dire la même chose demain. Alors, à plus forte raison, mon interprétation est différente de la vôtre. Donc je ne peux pas vous l'imposer, je ne peux pas dire, voilà, en tant que chrétien, ce qu'il faut faire, ou etc. Enfin, oui, ce midi, je nous interpelle, et je ne sais pas s'il n'y a que des chrétiens ici, peut-être qu'il y en a qui ne le sont pas, ma parole est celle de ce que je suis.
Alors effectivement, c'est ce qu'on te demandait d'ailleurs, et c'est pour ça que je voulais te présenter, qu'on sache d'où tu parles. Pour vous expliquer, demain, ça sera une personne juive qui viendra parler. J'avais aussi invité, alors là on s'éloigne un peu de la Bible, au moins avec nos frères juifs, on partage les mêmes textes, enfin, nous on en a un peu plus qu'eux, hein, on est arrivé après, mais tandis qu'on avait souhaité, le groupe de préparation, inviter un musulman. Or, tous nos efforts pour joindre quelqu'un qui accepte de venir, ça n'aurait pas été biblique, mais si ce serait basé sur le Coran, on aurait compris quand même. Donc, pour revenir à la question de Josette, si j'ai bien compris ce que voulait le Conseil presbytéral, ils auraient aussi pu choisir foi religieux, politique et foi, ce qui était quand même légèrement différent. Quand on parle de religion, ça veut dire un groupe de croyants organisés dans le monde matériel, avec plus ou moins de hiérarchie, plus ou moins de visibilité, plus ou moins de pouvoir, suivant les époques. Donc, essentiellement, on est une majorité de chrétiens, on va essayer de parler de ce qu'on connaît mieux, c'est-à-dire des problèmes du chrétien pour vivre dans le monde et interagir, voilà, la politique. Mais effectivement, tu avais bien fait de poser la question, mais tu as dit, politique n'est pas un mot chrétien, et en fait, les musulmans ont leur conception de la relation politique et religion. Ça aurait été intéressant de les avoir, bon, ça n'a pas été possible. Nous, on a notre conception, on sera content d'entendre demain le docteur Albert Fachler, on verra comment lui conçoit ça. Voilà, est-ce que ça répond un peu à ta question ?
Oui, et à la fois, c'est un petit peu, comment dirais-je,
ce même thématique, c'est pour aussi nous aider en tant que chrétiens à aller de l'avant dans un certain secteur. Et je trouve que ce domaine justement de la politique est tellement pertinent aujourd'hui et tellement fort parce qu'on se rend compte que le choix que nous faisons des personnes transforme toute notre vie de tous les jours. Alors c'est là où je pense que le chrétien doit s'interroger vraiment. Quand je fais cette action politique, j'implique quoi ? Et c'est pour cette raison que ce serait intéressant de bien approfondir que nous avons, justement, c'est décidé que c'est le côté chrétien, puisque nous savons que c'est dans ce sens-là, qu'est-ce que l'enseignement de l'Évangile nous donne comme indication pour que nous puissions vivre dans le milieu dans lequel de notre cité et de notre pays, avec la direction plus éclairée de la part de ce que l'Évangile nous dit. Avant, c'était ça que j'avais pensé. Mais alors après, si on élargit, bon, je ne suis pas contre. Hein. C'est ça qui m'a interpellé, le mot religion. Hein.
Voilà. C'est vrai, tu as raison. La plupart d'entre nous sont chrétiens, donc on va essayer déjà de se débrouiller avec ce qu'on entend par là.
J'entends votre problématique, mais je me méfie tellement des recettes, sauf de celles de cuisine, hein, qui sont vraiment excellentes. À Radio Semnoz, nous disons régulièrement que nous ne faisons pas de politique. Et puis récemment, j'ai interviewé une personne travaillant au niveau des maisons de retraite, qui parlait de la politique de la ville sur ce plan-là. Et puis quand je lui ai dit que nous, on essayait d'être le plus discret possible, il m'a dit « Mais de toute façon, vous en faites de la politique. » Et il avait parfaitement raison. C'est ce que j'ai essayé de dire d'ailleurs en introduction, c'est que à partir du moment où nous sommes en relation les uns avec les autres, nous faisons de la politique. Maintenant, de vous dire, voilà, ça c'est la bonne politique, moi je me sens instantanément ultra mal à l'aise. Je ne vais pas dénoncer mes petits camarades, mais j'ai interviewé une autre personne il y a peu de temps, qui est engagée en politique de manière chrétienne. Et rien que sa façon de parler m'a fait avoir un mouvement de recul. Alors je ne sais pas si moi j'ai une façon de parler pastorale. J'essaie d'éviter, parce que j'ai pas envie de rentrer dans cette boîte-là. Et je ne veux pas vous faire rentrer dans une boîte quelconque en vous disant, voilà, la manière chrétienne de bien faire, c'est celle-là. Je vous ai, me semble-t-il, donné par rapport à certains textes bibliques un éclairage. Et je pense qu'il est essentiel pour chacun d'entre nous de nous déterminer individuellement sur ce que nous souhaitons accomplir. Sachant que de toute façon, nous faisons de la politique tous ici.
Oui, tout à fait. Puis tu as bien fait de dire que ça n'était pas la Bible n'est pas, et l'Évangile lui-même n'est pas une recette. La preuve, c'est qu'on est beaucoup. On est beaucoup de chrétiens et on n'a pas tous les mêmes idées. On a pu s'en rendre compte. D'ailleurs, Joseph le sait puisqu'on a déjà eu quelques discussions. Et je l'admire. Je considère qu'elle est une chrétienne exemplaire, mais j'ai pas tout à fait sur plein de sujets les mêmes idées qu'elle, mais ça n'empêche pas.
Oui. J'ai été aussi interpellé par le thème. Religion au singulier. Moi, pour moi, je prenais le mot en tant que représentatif, mais à l'intérieur, je mettais toutes les religions, juives compris. Je parle de religion de la Bible. Moi, je trouve, quand vous dites, moi j'adhère au Christ et à 100%. Quand vous dites le Christ est le centre, il peut être le centre d'un cercle et là on enferme. Mais il peut être au centre d'une vigne. Et là, je ne peux pas oublier ce qui est avant. Moi, je trouve dommage que, bon, le temps, vous aviez une demi-heure, vous aurez pu faire référence à des citations de l'Ancien, enfin, je dis du Premier Testament, parce que le passé nourrit le présent et le futur.
Juste dire que le Nouveau Testament date de 2000 ans, donc...
Ou le Second Testament. Non, vous avez tout à fait raison.
Bonjour. Alors, politique et religion, alors moi j'inverserai les termes et je mettrai religion et politique dans le sens où la religion pourrait être une démarche individuelle et cette démarche individuelle pourrait ouvrir effectivement sur le monde politique, c'est-à-dire sur l'ouverture aux autres et sur l'ouverture à la vie de la cité en général ou au monde politique. Donc en fait, est-ce que ce serait dans ce sens-là qu'il faudrait comprendre l'alliance politique et religion, c'est-à-dire qu'une démarche individuelle féconderait une réflexion. réflexion sur les autres, l'ouverture aux autres.
Alors je vais peut-être être un peu provocateur, mais je me demande si la religion n'est pas une forme d'organisation politique. Qui peut être utilisé pour l'ouverture comme pour la fermeture. Je pourrais développer, mais bon, je ne sais pas si je vous aide en vous disant ça.
Oui, alors moi, du coup, c'est plutôt une. J'aurais aimé vous entendre parler. J'ai rebondi sur ce que vous avez dit, sur la première responsabilité, prendre soin de tous, sa lutte dans le sens de l'être entier. Et j'ai appris fortuitement que l'Église adventiste et la Ligue Vie et Santé étaient à l'origine du plan de 5 jours pour arrêter de fumer. Et souvent on ne le sait pas, et je trouve que c'est un exemple vraiment parlant de ce que peut être un engagement chrétien pour une transformation et une responsabilité sociale. Et je trouve que j'aimerais vous entendre un petit peu, peut-être si vous savez comment ça avait commencé. Je trouve que c'est peut-être des tas de gens ont arrêté de fumer, ont retrouvé une vie, plutôt prolongé leur vie. Et je trouve que c'est un engagement chrétien discret, mais qui a su prendre toute sa place et être connu sur l'espace public. Et voilà.
Alors d'abord, je vous remercie de relever cela parce que en France, selon les régions, le rapprochement entre l'Église adventiste et la Ligue Vie et Santé a parfois causé quelques soucis à la Ligue Vie et Santé en l'occurrence, pour des raisons politiques. Le plan 5 jours est apparu aux États-Unis à la fin des années 50, début des années 60. Il a été créé par deux médecins. Et quelqu'un qui était aussi engagé sur le... Enfin, ils étaient tous les deux engagés dans leur vie d'église, mais l'un des deux un peu plus que l'autre, et qui avait ce souci-là d'améliorer la qualité de vie des personnes. Pas forcément de rajouter des années, c'est ce qu'on dit souvent dans le plan 5 jours, il se trouve que j'ai été animateur pendant un certain temps avec le docteur Guenard, en l'occurrence, que vous connaissez pour certains probablement. Et il ne s'agit pas tant d'ajouter des années à la vie que de la qualité de vie aux années qui nous sont données. Et votre réflexion me fait penser à la réflexion d'une pasteur de l'Église réformée de France, enfin à l'époque c'était le cas, qui s'occupe aujourd'hui d'œcuménisme à Genève, qui disait, mais comment se fait-il que vous, en tant qu'adventiste, vous annoncez l'apocalypse, allez, je vais dire ça comme ça, et que pourtant vous êtes engagé dans des programmes comme la Ligue Vie et Santé, dans des programmes d'aide, de soins, etc. Alors que vous affirmez aussi assez haut et fort que tout ça va s'arrêter un jour et peut-être prochainement. Et je crois que, ben, de toute façon, tous les jours de notre vie, tous ceux qui nous sont donnés, nous sommes invités à prendre soin. Et dans l'idée de soin que j'ai donnée tout à l'heure, je crois que ce soin, il peut exister simplement dans ce que nous sommes en train de partager maintenant. C'est déjà un soin que nous nous prodiguons les uns aux autres là. Du coup, notre engagement citoyen et de politique, il est démultiplié. Il prend une ampleur qui peut paraître un peu vertigineuse. Ce vertige-là, oui, je pense l'avoir observé. C'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui je ne suis plus pasteur, parce que j'avais le sentiment de ne pas être capable de répondre au vertige, quoi, de donner suffisamment de soin. Voilà mes interrogations.
Oui, alors dans la ligne de ce que dit Laurette, en fait, aux États-Unis, les adventistes sont à l'origine de l'amélioration de la nutrition. Je crois que le docteur Kellogg, c'était un adventiste. Il a été très persécuté parce qu'adventiste, mais pas à cause de ses, Et c'est lui qui avait inventé les petits déjeuners à base de céréales pour remplacer ces déjeuners qui rendent les gens obèses. Pareil pour la lutte contre l'alcoolisme. En France, on sait que les protestants sont engagés dans la Croix Bleue. Ça a été les premiers, c'était les protestants qui étaient les premiers à s'engager contre l'addiction alcoolique. Mais aux États-Unis, ça se faisait, les adventistes étaient en fer de lance. Donc, c'est une forme de politique quand même. C'est-à-dire, ce que disait hier le père Tournade, c'est l'engagement dans la cité. Et donc, tout à l'heure, il y a eu, je n'ai pas voulu réagir, mais quand on parlait de politique, on pensait tout de suite élection et nommer quelqu'un. Oui, ça, c'est aussi de la politique.
C'est un point important.
Mais, c'est ça, comme dit Fabrice, c'est un point important, mais faire de la politique, c'est aussi s'engager dans des associations locales, c'est s'engager, faire entendre sa voix. Voilà. Oui.
Bonjour. Au début de votre exposé, vous avez mis en première partie au niveau de la politique que celle-ci concernait l'ego. Que la religion concernait davantage l'humanisme. Cependant, nous avons certains partis qui se disent être humanistes. Alors, s'agit-il, lorsque l'on est humaniste, et que l'on s'engage en politique, est-ce à dire que l'on revient davantage vers son ego ?
Oui, je n'irai pas jusque-là, mais. Je voudrais préciser ma pensée tout à l'heure. Hein. Pour moi, aussi bien la politique que la religion peuvent nous ramener à notre ego. Parce que des gourous, il n'y en a pas qu'en politique. Ensuite, par rapport à cette question d'ego, je crois que. Qu'il ne s'agit pas de se nier soi-même, mais peut-être au contraire d'être pleinement soi-même pour être aussi pleinement avec les autres. Ce qui me dérange dans la politique, c'est que, et dans certaines pratiques religieuses, c'est qu'on est centré sur une personne, bien souvent. Et que tout le monde est au service de cette personne. C'est pour ça que je parlais de centrer sur Jésus-Christ tout à l'heure, avec tous les défauts de langage qu'il peut y avoir aussi dans cette expression. Mais tout à l'heure, j'ai évoqué le président du Parti chrétien républicain, Parti républicain chrétien. Je ne l'ai pas mentionné comme tel, mais voilà, je le fais maintenant. Et dans la discussion que j'ai, je ne sais pas si vous savez que ce parti existe depuis quelques années maintenant. Et dans la discussion que j'ai eue avec cette personne, c'était très intéressant parce qu'à un moment donné, il a souligné la différence entre faire de la politique et l'électoralisme. Tout à l'heure, on évoquait tout juste ça. Et je crois que oui, de plus en plus, la politique, c'est de l'électoralisme. Et ce n'est pas mener à bien une action en faveur de la société, de l'humanité. Alors peut-être que là, ça nous donne une piste de recadrage.
Merci.
Oui, on a fait une loi de séparation de l'Église et d'État en 1905. Ce qui a été très bien pour la gestion matérielle des biens, puisque tous les biens matériels, les églises constituent un passé historique de notre patrimoine. Et c'est très bien comme ça, mais je pense qu'on en fait trop de frontières au niveau de la politique et de la religion. Et que le plus bel exemple, je pense, au niveau de pratique de la vie quotidienne, c'est Gandhi. Lorsqu'il a pu se pratiquer dans ses actions et au niveau de la communauté, de la collectivité indienne, une pratique à la fois spirituelle, une pratique politique et une pratique quotidienne. Et C'est pour ça que je trouve qu'on fait trop de séparation entre politique et religion. Et pour moi, il n'y a pas de séparation entre le sacré et le profane. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour agir dans la vie quotidienne ou dans politique, etc., il faut beaucoup de prières, non pas de prières, évidemment, c'est des prières qui sont aussi individuelles, qui sont personnelles, mais il y a aussi beaucoup de prières, beaucoup de méditation, beaucoup de recherche, de réflexion collective. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de séparation. Je pense que là, ça sert aussi la démocratie. Et il me semble que là, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et je souffre beaucoup parce qu'il y a trop de séparation entre cette religion et la politique. Enfin, les sagesses du monde et la politique. Et par, je prendrais par exemple le foulard. L'affaire du foulard, c'est un exemple concret. Ben, nous, on a vécu dans l'Église chrétienne, catholique, à d'autres périodes de l'histoire, ces phénomènes-là, et qu'on a d'autres. Il y a le mouvement du printemps arabe, mais nous aussi, on a eu beaucoup de péripéties, et on aura encore beaucoup à cheminer pour que ce que je disais, tout ça, cette réflexion, cette méditation politique, collective, pour essayer de décider des choses ensemble.
Alors par rapport au foulard, c'est un sujet que je ne maîtrise absolument pas, même si j'ai eu à y réfléchir. J'aurais envie comme ça, brûle pour point, de vous renvoyer un livre, je crois que c'est Le foulard expliqué à ma fille ou à mon fils. Il se trouve que l'auteur habite à Sedo, est d'origine nord-africaine, et peut-être qu'il y a des choses à découvrir en lisant ce livre. C'est en quelque sorte une parenthèse. Sans vouloir verser dans les lieux communs, je pense que la problématique de la laïcité est un peu franco-française. En tout cas, cette séparation aussi marquée. Et moi, ce qui me fait souffrir, et je pense comprendre votre souffrance, c'est que bien souvent, j'ai l'impression que la laïcité n'en est plus, que c'est devenu du laïcisme. Donc, une autre forme de religion, une autre religion. J'ose dire ça, j'espère que personne ne va me lapider à la sortie. Mais quand je vois certaines prises de position, il y a quelque chose d'effrayant. J'assiste, depuis que je ne suis plus pasteur, à toute une série de rencontres très différentes dans des contextes autres que l'Église, donc, au sens global du terme, et je m'aperçois qu'il y a des comportements, mais qui correspondent à ce que je vivais à l'intérieur de l'Église, et ce que je... Ouais, enfin, je trouvais que c'était du fanatisme, quoi. Donc les comportements humains, au final, sont sensiblement les mêmes, d'un côté et de l'autre. Et alors, je ne sais pas s'il faut entrer dans un fonctionnement à l'anglo-saxonne, parce que il y a aussi d'autres inconvénients, hein. Vous voyez comment se déroulent les élections aux États-Unis et comment la religion y est mêlée. D'autres problèmes. Mais peut-être est-ce que nous pouvons faire des efforts, oui. Et j'apprécie des initiatives comme celle, là pour le coup, je ne mentionnerai aucun nom, mais d'un organisme laïque qui, arrivant à la porte de l'espace arc-en-ciel ici à Annecy, voyant qu'il y a écrit Radio Cénose, mais aussi de l'autre côté, Église Adventiste, Église Baptiste, et ah non, moi j'entre pas là. Et puis un de ses collaborateurs qui dit, bah, si moi, on y va. Là j'apprécie, je me dis qu'on peut faire quelque chose. On peut avancer. Et ben, merci Fabrice, ça n'arrêterait pas de t'écouter. J'espère que... Je suis content qu'il y ait eu beaucoup de questions aujourd'hui, ça t'es pas tout seul à travailler. Et merci pour cet éclairage que tu nous donnes, merci pour ton engagement. Alors, tu nous as dit que être chrétien, c'est faire un peu plus que les autres, en particulier prendre soin de toutes et de tous. Donc je redemande aujourd'hui, par amitié, laissez Fabrice aller au moins jusqu'au dessert et au café, car il a préféré ne pas manger pour rester bien concentré, pour être disponible pour vous.
Alors voilà, il répondra à vos questions, mais au moins qu'il ait quelque chose. Je ne voudrais pas qu'il fasse une hypoglycémie. J'ai souci de prendre soin de lui. Voilà. Alors, la semaine thématique va continuer, bien sûr. Donc demain, vous l'avez entendu, c'est le docteur Albert Feuchler pour le judaïsme qui viendra nous parler. Vendredi midi, c'est le pasteur Bruno Gérard de l'église protestante de Genève qui parlera donc sur le livre des juges et politique et religion, une bien épineuse question. Samedi à 17h30, ici dans le temple, il y aura le concert gospel du groupe Good News, dont le titre est Good News for Freedom. Et puis dimanche, le culte de clôture de cette semaine thématique. Le tableau derrière moi, donc je vous en ai parlé. Et puis, est-ce que j'aurais encore oublié quelque chose? Parce que j'ai pas Charlotte aujourd'hui pour me souffler. Ah oui, alors, nous remercions aussi Fabrice Henriot qui a bien voulu que nous enregistrions son intervention et les questions qui ont suivi. Et ça va être mis sur le site, ces questions-réponses et l'intervention seront mises sur le site de l'Église réformée. Ça s'appelle encore comme ça, l'Église réformée de France, dans la quinzaine, puisque notre webmaster est en cure. Donc, tout sera sur le site erf-annecy.org. Bon dessert et bon café.